Morin. Live.
Avec Dominique Morin.
Pourquoi pas?
Dan Gravel.
Et Doom Dumas. Radio X.
Doom Morex sera de retour le 10 août prochain, puis possiblement que l'Open va avoir changé. Là. J'imagine qu'on va ajuster ça, qu'on va l'éditer. Le retour de Nick se fait dans deux semaines maintenant. Nick va être de retour le 5 juillet. Ce matin, je suis avec Max Lacasse.
En présence.
Et tu seras là également la semaine prochaine.
Absolument, avec plaisir même.
Par contre, Louis sera pas là la semaine prochaine.
Non, puis ça, c'est un drame.
Oui, ça, c'est un drame. Par contre, c'est le grand retour de François Gariépy.
Ah ben ça, c'est un vrai privilège et
voilà,
un plaisir aussi.
Voilà Gary qui va être avec nous autres à partir de lundi prochain. Puis on va terminer après la Confédération avec Camille de retour à Radio X. Donc au fil des semaines, les gens se succéderont au micro. Nick qui revient le 5, qui a... vous allez entendre un paquet de monde avec nous dans Morin Live. On va faire le tour de ce qui se passe. Puis il y a souvent des sujets d'été. Puis le prochain sujet, on en a tellement parlé souvent. C'est l'histoire des terres du séminaire. Les terres du séminaire, c'est un joyau de la région de Québec. Tu sais, on dit on est limité au niveau des terrains dans la région de Québec. Puis on dit toujours, ouais, mais il y a les terres du séminaire. On va en parler avec l'historien Alex Tremblay-Lamarche. D'abord, bon matin, bon vendredi.
Bonjour.
Écoute, Alex, je peux t'appeler Alex?
Oui, bien sûr.
J'ai toujours eu la perception, personnellement, et depuis très, très longtemps, que les terres du séminaire, c'était une portion de terrain qui était limitée à certains oligarques qui pouvaient se construire... Des fois, on se raconte des histoires, là.
Ouais.
Qui pouvaient se construire des chalets en bois rond, des affaires qui n'ont pas de bon sens, et puis qu'on mettait des barrières à l'entrée pour être certain que personne n'ait accès à ces fameux terrains de pêche ou de chasse. Est-ce que je me trompe ou je me trompe pas?
C'est pas tout à fait ça. En fait, la raison pour laquelle ça appartient au Séminaire de Québec, c'est parce que ça a été acheté par Monseigneur de Laval dans les années 1660. Et Monseigneur de Laval, donc le premier évêque de Québec, qui avait aussi fondé le Séminaire de Québec, a légué les terres, en fait, la seigneurie de Beaupré, qui est une immense seigneurie qui s'étend grosso modo de la chute Montmorency jusqu'à la rivière du Gouffre. Ça, c'est la rivière qui passe là à Baie-Saint-Paul.
Okay.
Et il va léguer cette seigneurie-là au Séminaire de Québec. Et l'objectif, c'est de permettre au Séminaire d'avoir des revenus pour financer ses œuvres d'éducation, ses œuvres, aussi d'aider le diocèse, etc.
Est-ce que l'île d'Orléans faisait partie à la base?
L'île d'Orléans faisait partie à la base et Monseigneur de Laval va échanger l'île d'Orléans contre l'île Jésus. Et donc, l'île de Laval, ça a déjà appartenu au Séminaire de Québec, puis de fil en aiguille, ils s'en sont départis.
C'est un... Quand on va sur Google Earth ou peu importe, l'image satellite, on le voit. Les terres du séminaire, c'est immense, c'est gros. Tous ceux qui ont été se promener là, parce qu'il y a du monde quand même qui ont accès, disent c'est un joyau. Il y a des gens de la population de la région de Québec qui, la semaine passée, se sont réunis à la porte, là, à la guérite, là, où il y a un cadenas, pour dire on voudrait avoir accès à ces terres-là, mais c'est un terrain privé, ça appartient au Séminaire de Québec. D'abord, c'est qui est clé du cadenas?
Y a les gens du Séminaire de Québec, puis il y a leur équipe. Ils ont une équipe là, d'à peu près une dizaine de personnes qui travaillent là, en été. Puis ben, l'été, ça fait travailler même plus de 400 personnes parce qu'il y a de l'exploitation forestière, il y a un petit peu d'éoliennes, etc. Et donc, ils ont une espèce de... Ils ont une équipe
c'est
qui
Bar-Alex,
travaille.
C'est Bar-Alex qui est là. Bar-Alex, l'entreprise qui est en train de mettre des éoliennes sans nécessairement trop qu'on le voit sur les terres du séminaire. Ça permet en même temps, j'imagine, au séminaire de cacher. Là.
Je pense pas que l'objectif du séminaire est de cacher ça.
Non, pas de le cacher, dans le sens de le cacher, mais de faire du cash avec, de faire de l'argent.
Ah oui, il y a un objectif de faire de l'argent, puis je pense que le séminaire s'en cache pas. Et ça sert notamment à entretenir les bâtiments qui sont dans le Vieux-Québec du Séminaire de Québec. Bon, le Nouveau Musée national d'histoire est dans un des bâtiments du Séminaire de Québec. Il y a également tout plein d'autres bâtiments. Il y a aussi des archives du Séminaire de Québec qui ont été reconnues comme un joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO. Entretenir tout ça, ça coûte cher, et donc ces revenus-là servent entre autres à préserver ça, puis à préserver tout le caractère patrimonial du Vieux-Québec.
Revenons à l'histoire. Pourquoi est-ce que le bon seigneur de Laval avait ces terres-là? Comment est-ce qu'il s'est porté acquéreur de tout ça? Et comment, dans le temps, c'est resté hyper protégé?
Bien, Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que Monseigneur de Laval vient d'une des familles les très, très riches en France. Lui, il aurait pu être courtisan à Versailles, il aurait pu effectivement avoir une très, très belle vie, mais il y a une espèce, la contre-réforme frappe très, très fort en France à l'époque, et donc il y a des gens pour qui la religion les frappe vraiment très, très fort, et lui, il décide de venir au Québec puis de fonder un diocèse en Amérique du Nord. Ouais. Puis ben, c'est aussi ce qui va amener des gens à fonder Montréal, à des communautés religieuses à venir. Donc, il y a vraiment tout ça. Mais lui, il a beaucoup, beaucoup d'argent et il va acheter ces seigneuries-là. Pour notamment, il va acheter l'île Jésus, comme j'avais mentionné. La Petite Nation, ça, c'est la seigneurie de Papineau qui est dans le coin de Gatineau. Et il achète ces seigneuries-là pour les donner au séminaire afin de lui donner des revenus. Et la raison pour laquelle c'est toujours entre les mains du séminaire de Québec, c'est qu'au 19e siècle, on va abolir le système seigneurial. Mais peut-être une petite parenthèse d'abord sur ce qu'est le système seigneurial. Dans le fond, c'est un système qui dit on donne des morceaux de terre à des gens pour que ces gens-là, c'est des seigneurs. Ils amènent des gens dessus pour peupler la seigneurie. Ça, c'est les censitaires. Mm-hmm. Eux autres, ils ont des fermes. Et l'objectif, c'est que le censitaire va donner une partie de ses récoltes au seigneur, mais le seigneur va mettre des services comme un moulin, de la voirie, etc.
Une espèce de taxe.
Oui, c'est ça. C'est une espèce de taxe.
Mais toutes ces seigneuries-là sont devenues des villes. Aujourd'hui, sont devenues des municipalités. Pourquoi est-ce que c'est pas ce qui est arrivé avec l'État du séminaire?
Ce qui s'est passé, c'est que quand on a aboli le système seigneurial en 1854, on a décidé que tous les endroits où il y avait du monde, donc des censitaires, etc., ça pouvait être redonné aux censitaires moyennant une espèce de somme symbolique. Et donc, toute la partie qui est sur le bord du fleuve, donc Saint-Anne-de-Beaupré, Bois-Châtel, Château-Richer, etc., ça, c'est tout retourné dans les mains des gens qui étaient là. Mais les parties qui n'étaient pas encore données à des gens, c'est rentré dans les mains des seigneurs. Donc, toute la partie qui était derrière sur la falaise en bois debout est restée entre les mains du séminaire de Québec à l'abolition du régime seigneurial. Il y a également d'autres seigneurs qui ont gardé des terres à ce moment-là, au 19e siècle, mais de fil en aiguille, ça a été perdu ou c'était pas d'une aussi grande ampleur.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2026, on a du monde qui, ça a été couvert par Radio-Canada la semaine passée, c'est là d'ailleurs que je t'ai vu. Il y a du monde qui vont manifester pour dire on veut un droit d'accès à ces terres-là. On aimerait ça avoir la clé du cadenas, nous autres aussi, ou qu'il n'y ait pas de cadenas. Et il y en a d'autres qui ont non seulement la clé du cadenas, mais qui ont été capables, comme on le disait en début d'entrevue, de se bâtir un chalet. Ça s'est négocié avec le séminaire directement, ça, ce genre de patente-là?
Ce qui s'est passé, c'est que de fil en aiguille, il y a des gens qui se sont établis. C'est des ententes qui ont été faites avec le séminaire de Québec. Et donc, oui, il y a une couple de chalets sur le territoire. Il y a également des sentiers de motoneige, des sentiers de ski de fond, des sentiers de randonnée. Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles le séminaire de Québec en garde l'accès privé, c'est aussi qu'il y a de l'exploitation forestière, puis il y a probablement des raisons de sécurité, pécuniaire, etc. Aussi.
Ouais. Ce portefeuille de territoire-là, on évalue ça à combien en valeur?
Ça, je ne saurais pas dire. En fait, ce que je peux dire, c'est l'ampleur. Grosso modo, c'est gros comme trois fois l'île de Montréal. On parle à peu près une bande là, qui fait grosso modo une vingtaine de kilomètres de profondeur par une quatre-vingtaine de kilomètres là, de long de la rivière Montmorency jusqu'à la rivière du Gouffre.
Est-ce qu'on va pouvoir arriver un jour où ces terres-là vont pouvoir être achetées par des particuliers, des entreprises privées pour faire plus d'argent, pour en donner plus au séminaire, ou ce jour-là va jamais arriver de ton point de vue?
J'ai l'impression que peut-être, mais tu sais, le séminaire de Québec, ces terres-là, pour lui, c'est vraiment quelque chose qui a une grande importance. Parce que le séminaire de Québec a été fondé par Monseigneur de Laval au 17e siècle, et la manière dont le séminaire de Québec voit ces terres-là, c'est vraiment comme un héritage qui leur a été donné par leur fondateur. Puis leur fondateur leur a dit, tant son temps que vous allez avoir ces terres-là, vous allez être capable d'exister puis d'avoir des moyens pour continuer votre œuvre, votre mission. Fait que oui, il y a un aspect financier, mais il y a aussi un aspect symbolique, un attachement, tu sais, comme si votre arrière-arrière-grand-père avait transmis quelque chose à chaque génération, puis que là, votre père vous le transmet, puis dit « Hey, c'est précieux, j'espère que tu vas le donner à ton fils. »
On l'a vu, il y a une barrière à l'entrée. Est-ce que c'est pas clôturé tout le tour, là?
Ça me surprendrait.
OK, donc l'information n'a pas. Ouais, c'est quand même assez grave, ce que je me disais.
C'est un projet.
Ils sont bons clôtures terriers, mais à un moment donné, il faut de la clôture frost sans plan, faire des plis.
On va appeler Trump.
On va appeler Trump, oui. À partir de ce moment-là, est-ce que c'est totalement fermé à la population où il y a quand même des accès qui sont créés? Est-ce qu'on donne des droits, par exemple, pour des randonneurs ou encore de la motoneige ou ce genre de trip-là?
Oui, bien, il y a des accès à la population. Il y a à peu près 160 ou 180 kilomètres de skidoo, de sentiers de skidoo l'hiver. Il y a des sentiers de ski de fond, il y a des sentiers de randonnée. Fait qu'il y a une partie des terres du séminaire qui sont accessibles à la population.
Donc, d'avoir une municipalité qui pourrait s'appeler Laval en Québec sur les terres du séminaire, ça n'arrivera jamais, là.
Faut jamais dire jamais. Mais effectivement, j'ai pas l'impression à moyen terme que c'est là où le séminaire de Québec veut aller.
La ville de Québec ne grandira pas par les terres du séminaire.
J'ai pas l'impression non plus, parce que si ça avait à être rattaché à quelque part, ça serait davantage dans la MRC de la Côte-de-Beaupré. Officiellement, ces terres-là, ben, ils sont rattachés administrativement à la Côte-de-Beaupré. Donc, ça serait plus dans cette
plus dans ce secteur. Ouais, c'est une façon de l'imager, ouais. Là, mais donc ça va toujours rester, ça va toujours rester des terres sur lesquelles. Parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent là-dessus. Tu vas me dire, c'est leur terre, c'est eux autres, ils font ce qu'ils veulent là-dessus. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui lève la main en disant, on aimerait ça le savoir, entre autres avec le projet de Boralex, ça va, qu'est-ce qu'on est en train de faire là-dessus. T'sais, c'est comme si à ciel ouvert, il y avait un. Tu l'as dit, c'est trois fois comme la grosseur de Montréal, il y avait un espace dans la région de Québec où. C'est impossible de savoir ce qui se passe là. Impossible. Est-ce que tu comprends un peu la perception que les gens ont? Tu sais, il y a un mythe qui s'est créé avec le fil du temps sur les terres du séminaire en se disant « Tabarnouche, si on va creuser là-bas, ils ont-tu caché quelque chose? » Tu comprends? On a l'impression que c'est comme le désert de Vegas, ça.
Oui, effectivement, je comprends. Il y a quelque chose de mystérieux derrière ces terres-là parce que, bon, ben, quand on enlève l'accès à un endroit, quand c'est une propriété privée, ben, on se demande toujours qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, oui, c'est clair, effectivement, que ces terres-là suscitent un petit peu la convoitise, suscitent de l'intérêt. Légalement parlant, le séminaire de Québec est parfaitement dans son droit. C'est un terrain privé, au même titre que ben, nous, nos maisons ou nos condos, effectivement, c'est des terrains privés. Puis s'il y a des gens qui viennent dedans, ben, ils n'ont pas d'affaires à être là. Mais c'est sûr que ça pose une question, bon, d'un point de vue éthique, d'un point de vue, effectivement, un peu plus philosophique. Est-ce qu'un particulier devrait avoir une terre aussi
importante? Au moins une transparence. Il y a du monde sur le texto qui nous dit ce qu'ils apprennent aujourd'hui, que Boralex a des projets d'éoliennes sur les terres du séminaire. T'sais, c'est pas totalement transparent. Parents non plus, puis j'imagine que les autres, Boralex, ils ont les clés du cadenas. Il y en a combien de personnes qui ont les clés de ce cadenas-là?
Ah, ça, j'en ai aucune idée de mon côté.
Là. Aucune idée, c'est bon. Es-tu déjà allé, ce sera pas long, Max, es-tu déjà allé les visiter ou aller sur une pourvoirie dans le secteur où non, t'as jamais été invité?
Non, moi, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller.
Ben, moi non
vu,
plus.
J'ai vu des reportages qui montrent effectivement ces terres-là. Qui sont effectivement de toute beauté puis à couper le souffle, mais c'est ça, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Je les ai plus étudiés dans les livres puis effectivement dans des documentaires.
Max?
Est-ce que le visage de ces terres-là a changé au fil du temps à partir du moment où François de Laval les accueille au tournant des années 1600 jusqu'à l'abolition des seigneuries 1850 dans ces eaux-là, les services féodaux, on laisse ça de côté, le système féodal est aboli jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des cultures qui se faisaient à l'époque qui ne se font plus aujourd'hui où les terres sont restées à peu près pareilles comparativement à 400 ans jusqu'à aujourd'hui?
Bien, je dirais qu'il y a une bonne partie de ces terres-là qui sont restées sensiblement pareilles parce que bien, la raison pour laquelle c'est resté entre les mains du séminaire, c'est que ça n'avait pas encore été exploité, ça n'avait pas encore été confié à des gens. Par contre, au début du 20e siècle, ben, le séminaire de Québec va s'entendre avec des compagnies d'exploitation forestière, notamment la Sainte-Anne Power Company, qui va faire un barrage hydroélectrique dans le secteur, puis il va avoir tranquillement de l'exploitation forestière qui va commencer.
À quel point ils exploitent?
Ça, je ne saurais pas dire. Mais c'est ça, il y a de l'exploitation forestière qui commence à cette époque-là, puis ben, je pense que c'est fait selon ce que j'ai pu lire dans une perspective de développement durable, donc de toujours permettre à la forêt de se régénérer, d'en exploiter une petite partie à la fois. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le séminaire de Québec, c'est pas un propriétaire comme vous puis moi. Tu sais, eux autres, ils sont là depuis 400 ans, puis ils estiment, à tort ou à raison, que dans 100, 200, 300 ans, ils vont encore être là. Une communauté religieuse, ça se pense pas effectivement dans un horizon de 70 à 90 ans. Ça se pense effectivement sur le très, très long terme. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pris des décisions qui les ont amenés à être toujours propriétaires, puis qu'ils prennent des décisions qui, ben, ils espèrent vont les amener à continuer à être propriétaires et qui va permettre à la forêt de continuer à livrer à la fois, effectivement, bon, ce qu'elle peut livrer, puis c'est ça, dans le temps long, là.
Je ne m'attendais pas à ce que ça pogne tant que ça sur la messagerie. C'est fou à quel point les gens nous parlent des terres du séminaire. Je suis bien content de t'avoir parlé ce matin. Alex Tremblay-Lamarche, historien. Historien pour...
Je suis notamment à la revue Cap au Diamant, une revue d'histoire super tripante. Puis, ben, j'ai aussi une émission de télé qui s'appelle La Face Cachée, qui est diffusée à ma TV. Donc, ça, c'est la chaîne avec Vidéotron, puis qui est accessible gratuitement en ligne sur Internet. Il y a notamment un épisode qui s'appelle « La face cachée du séminaire de Québec ». Donc, si les gens désirent en apprendre plus, tapez
ben «
La
oui.
face cachée
Moi,
du séminaire de Québec ».
Moi, j'aime ça, l'histoire. Si je veux te réinviter cet été, je peux-tu?
Ben oui.
Tabarnouche, ça a été belle fun. Merci infiniment. Visiblement, tu connaissais ton sujet. Puis, je pensais que tu allais pouvoir me faire une copie de la clé, mais tu l'as pas toi non plus.
Ah, j'aurais aimé ça, mais...
Je vais faire mon barbecue ailleurs en fin de semaine. C'est ça. Merci infiniment. Alex Tremblay-Lamarche, historien, il vous a dit que vous pouviez le suivre. Puis, ce fut un réel plaisir. Passe un bon week-end.
À vous aussi.
Bye-bye.
Live.
Pourquoi pas? Radio X.